Bien, bonjour. Je vous remercie d'être présent pour cette seconde séance, surtout pour ceux qui sont venus. Et puis, merci à ceux qui viennent pour la première fois. Donc, à cette séance de l'Université populaire. Donc, cette semaine, je vais vous faire une présentation autour de la question des fractures numériques, et pas seulement des fractures numériques. La semaine prochaine, il y aura deux séances, même heure, même endroit, le mercredi et jeudi. Vous êtes bienvenus, bien sûr, aux deux, si vous avez la disponibilité et l'intérêt d'y venir. Je réévoquerai peut-être en fin de séance de quoi il s'agira. Bon. Donc aujourd'hui, on va causer, je vais essayer de vous causer, puis comme la semaine dernière, si vous avez des contributions, des propositions, des expériences qui rajoutent, qui amènent quelque chose de différent, qui posent les choses autrement ou qui interrogent la question autrement, et bien sûr vous êtes les bienvenus pour m'interrompre. J'ai la petite manette, ça ne défile pas tout seul, donc on a la gestion du temps un petit peu comme on veut. Donc, comme titre, ici je suis sur l'idée de fracture numérique, désespoir. Vous verrez, vous voyez que ça peut se condenser aussi les deux. Donc c'est l'idée que les situations de crise sont des situations qui peuvent être des situations difficiles, mais qui peuvent aussi être des situations propices au changement, propices à des transformations, propices à des émancipations, propices à ce qu'il se passe des choses différentes. Donc pourquoi pas? Voilà. Et derrière fracture numérique, je parlerai peut-être aussi de suture numérique et puis aussi d'accessibilité numérique.
Allô, ça va? Ça va? Et tu me disais qu'il y avait un logiciel pour le développement. Oui, c'est ça. Dans ma liste de logiciels, je disais que vous avez suivi et j'ai dit que vous n'avez pas. Mais c'est ça, très bon. C'est là que l'on parle de comment on peut faire un logiciel comme ça. Non, c'est le logiciel qui peut être copié, distribué gratuitement. Si tu es informaticien, tu peux même le donner.
D'accord, je commence à gagner tout le monde. Tu vois ce que tu en fais, tu cliques OK, tu me donnes 5 ans.
Mais oui, moi j'ai trop payé mon électricité et puis c'est de la même chose.
D'accord, je vais montrer les autres choses.
La source propose des logiciels de création audio et vidéo, de bureautique et des jeux. On y trouve aussi des films écrits à regarder sur l'écran ou sur téléphone, ainsi que des livres, nouvelles, romans et classiques.
Merci Moussa. Je vais aller, il faut que j'arrête de dire encore plus de problèmes.
La source appelle une application comme.
Voilà. Donc cette petite vidéo, donc vous voyez que c'était une présentation d'une borne de téléchargement locale qui est installée à Bamako au Mali par une association qui s'appelle cunafonie.org et qui permet aux gens de récupérer des logiciels libres, des contenus, etc., etc., moyennant une petite contribution, donc ici de 5 francs, qui sont des francs CFA, ou 50, je crois que c'était 50, ouais, 50. Certains s'étonneront que des gens payent pour des logiciels libres, éventuellement, je reviendrai sur cette question, parce que c'est pas le truc central, mais pourquoi éventuellement il y a des gens qui peuvent vendre du logiciel libre en tout bien, tout honneur. Alors cette petite vidéo pour voir ici comment on a bricolé un système pour pallier à des difficultés d'accès au numérique, parce que à Bamako, l'internet arrive encore à peu près, mais de façon irrégulière, mais dès qu'on s'éloigne de Bamako, au Mali, eh bien le réseau internet est quasiment inexistant, l'électricité est d'une accessibilité variable. Et donc, pour pouvoir utiliser des ordinateurs quand on a des ordinateurs, on ne va pas télécharger un logiciel en quelques minutes ou quelques secondes, comme on le fait assez facilement quand on est un habitant d'une zone urbaine en France, en Europe, en Amérique du Nord ou dans d'autres pays de la planète. C'est un petit peu le sujet, c'est de voir cette différence qu'il peut y avoir, les conséquences que ça peut avoir sur l'accès à la connaissance, à la culture, à l'économie qu'on peut avoir au travers du numérique. Alors, par fracture numérique, c'est un terme que certains préfèrent qu'on dise, qu'on parle de l'accessibilité numérique pour être plus positif. Mais malgré tout, je pense qu'on est quand même encore dans des situations de fracture et que ces situations de fracture, s'il y a des endroits où elles se réduisent, il y a peut-être aussi des endroits où aujourd'hui les écarts se creusent entre ceux qui ont accès et pas accès. Mais par disparité numérique, enfin par fracture numérique, eh bien ça va être les questions qui sont liées à la disparité à l'accès, à la disparité d'accès à l'usage, à la technologie, aux outils, et ce pour différentes raisons. Différentes raisons, on va essayer de passer en revue, grosso modo, 6 niveaux de disparité qu'on peut rencontrer. 6 niveaux qui font que la disparité à l'accès numérique est très variable d'un pays à l'autre. Sur la planète, il y a des inégalités d'accès au numérique. Si on se focalise sur le national, et on prendra entre autres l'exemple de la France, bien on verra qu'au niveau français, il y a aussi des disparités géographiques qui font que tout le monde n'a pas les mêmes possibilités, le même potentiel d'utilisation du numérique, de profit du numérique. Et puis, ces disparités sont des disparités qui sont aussi socioculturelles. Et là encore, on verra que si en France, on a un accès au numérique qui semble être pour toute la population, eh bien, on s'apercevra qu'il y a quand même une tranche de la population non négligeable qui n'a pas accès au numérique. Je citerai qu'un chiffre sur lequel je reviendrai éventuellement, mais pour introduire, c'est que vous avez 25% de la population qui n'a pas accès à Internet à la maison, contre approximativement 10-11% de la population qui a des tablettes. Aujourd'hui, dans la télé, dans les médias, dans les journaux, on ne s'intéresse qu'à un seul phénomène, celui des tablettes. Ensuite, il y a des différences qui sont des différences générationnelles. Là encore, on verra que selon les classes d'âge, eh bien, l'accès, l'utilisation n'est pas la même, aussi bien en quantité qu'en type d'usage. Je reviendrai aussi sur la question des genres, sur les différences d'accès qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes. Et puis le dernier niveau, ça sera celui que j'ai mis ici individuel, mais qui est ici plus lié à l'accessibilité physique et intellectuelle, cognitive, au numérique. Parce que là aussi, on le verra, et bien tout le monde ne peut pas utiliser un ordinateur de la même façon, une technologie numérique de la même façon. On n'a pas tous le même potentiel pour pouvoir les utiliser, ce qui crée là aussi un certain nombre de différences. Mais à chaque fois que je dis que ça ne permet pas l'accès, on verra que malgré tout, le numérique, pratiquement dans chaque cas, si d'un côté il est contraignant, il est amputant, il crée de la différence, d'un autre côté, eh bien, c'est parfois aussi une technologie qui va être une technologie prothèse. Ça va aussi être une technologie, par moment, qui va permettre, en sens inverse, à des personnes d'accéder à la connaissance, au savoir, des formes d'émancipation qui sont liées au numérique. Donc, on ne va pas avoir ce soir une position tranchée en disant le numérique crée de l'exclusion, ou une position tranchée qui dirait que le numérique c'est super bien parce que ça va permettre de réduire les exclusions et grâce au numérique, on va sortir de la crise plus heureux, plus intelligent et avec plus de bonheur pour les uns et pour les autres. On va voir que malgré tout, il y a des nuances, il y a des moments où il faut nuancer et où il faut être attentif aussi que derrière les problématiques les endroits où peuvent se poser ces conditions d'accès, eh bien, il y a des questions de choix de société, il y a des questions de réflexion, d'engagement sur pourquoi ça se passe, pourquoi il y a ces difficultés d'accès, pourquoi on ne se sert pas du numérique pour combler des disparités qu'il peut y avoir dans la société et entre les individus. Donc si je reviens sur l'exemple du maquis, du Mali, les maquis c'est des bistrots particuliers où se retrouvent les communautés africaines dans certaines régions de Lyon si je ne me trompe pas. Donc sur le Mali, 90% de la population n'a pas accès à Internet. Bamako donc est une zone privilégiée. Pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez que l'abonnement à Internet est de 30 000 francs par mois, soit grosso modo 45,73 €. Voyez en bas ce chiffre ici qui, à mon sens, est très intéressant pour le comparer avec celui qui est là, c'est que le revenu moyen d'un habitant au Mali, c'est grosso modo 300 € par an. Donc, vous voyez qu'il gagne 300 € par an pour payer un abonnement bien plus cher que l'abonnement ADSL qu'on va avoir en premier accès, en premier niveau en France, mais qui sera un accès au débit avec la télé, le téléphone gratuit, et patati et patata. Donc, je ne vous fais pas le dessin sur la différence qu'il va y avoir de revenus entre la France et le Mali, et sur le fait qu'un abonnement à Internet n'est pas du tout comparable. Il n'y a pas un respect des proportions. En revanche, vous verrez ici un chiffre qui, lui, fonctionne en sens inverse, c'est que si vous rentrez dans un cybercafé en France, vous en aurez probablement pour... Alors, je ne sais plus les chiffres, mais à un moment donné, c'était autour de 5-10 € de l'heure. Et vous voyez que dans un cybercafé, par contre, c'est pas très cher. Donc, ça va induire des pratiques et des usages qui ne sont pas les mêmes, qui font que, effectivement, les cybercafés sont très fréquentés en Afrique. Sont très fréquentés en Afrique parce que ben, c'est effectivement pas cher, parce que ça permet d'accéder à Internet sans avoir son propre équipement. Donc, il y a une espèce de logique de mutualisation qui se fait au travers de lieux qui économiquement vivent de ça, mais qui font que cet accès et ces accès publics vont permettre malgré tout un accès à Internet. Un accès à Internet qui n'est pas négligeable, parce qu'on le verra, ça va permettre qu'il y ait une circulation d'informations, pas tant au Mali. Ils ne vont pas se servir d'Internet pour s'envoyer des courriels entre Maliens de Bamako ou entre personnes qui travaillent dans le même bureau, comme ça se pratique dans quelques entreprises ou comme certains d'entre vous doivent le faire, c'est-à-dire envoyer un mail à leur compagne, leur compagnon qui est dans le même appartement, mais pour le faire rire sur une blague qu'on ne va pas partager en même temps sur l'écran. Mais ils vont communiquer avec les communautés maliennes, notamment, qui sont expatriées. Et ce fait de pouvoir communiquer rapidement, pour un prix qui n'est pas très cher, de façon synchrone, va avoir un impact aussi sur l'évolution des compétences, des usages, des connaissances et de l'information géopolitique en général, qui va amener ben, les populations, y compris au Mali, d'avoir une connaissance de ce qui se passe sur la planète, eh bien, qui est relativement actuelle, même si, a priori, eh bien, c'est des pays qui semblent éloignés de la dynamique informationnelle mondiale. Donc elle est en plein dedans, malgré tout. Je reviendrai dessus sur ce type de logique à d'autres moments, et notamment quand on abordera la question du téléphone mobile. Mais quelques petites cartes pour essayer de se représenter ce que c'est que la fracture numérique au niveau mondial. C'est des cartes. Alors, je mets ces cartes en sachant qu'il y a des cartes qui méritent effectivement d'être expliquées d'un petit peu plus près. Pour aussi, alors on ne va pas refaire l'émission qui a sur Arte sur le dessous des cartes, mais sur l'idée que les cartes, ça raconte quand même un certain nombre de choses sur ce qu'on veut leur faire dire. Celle qui est ici, c'est le nombre d'abonnés qu'on a à Internet en 2007. Alors les chiffres sont des chiffres qui sont... c'est une infographie qui est récupérée sur Wikipédia à partir de chiffres qui sont proposés par le site de la CIA. Donc le site de la CIA a un atlas qui est à jour de plein de chiffres et assez régulièrement. Ici, donc, à partir des chiffres de 2007, vous voyez que le nombre d'abonnés, on voit très nettement qu'il y a des régions du monde qui se différencient des autres au niveau d'un bleu plus sombre lorsqu'il y a beaucoup d'abonnés et puis d'un bleu vert clair lorsqu'il y en a très peu. Alors, Mali, vous voyez, dans le coin, ben, c'est pas très bleu. En revanche, vous voyez que les États-Unis sont un pays qui a énormément d'abonnés, de même que la Chine. Alors, le truc est contestable sur cette représentation, parce que cette représentation, elle nous montre bien une certaine fracture numérique. Mais où c'est contestable, c'est que le nombre d'abonnés potentiels en Chine n'est pas comparable au nombre d'abonnés potentiels qu'on peut avoir en Australie, parce qu'il n'y a pas la même population. Donc, cette carte est quand même importante sur un truc, c'est qu'elle veut dire que l'Internet mondial, aujourd'hui, ne se résume pas à un Internet pour les Américains ou pour les Occidentaux, mais que vous avez une partie du monde conséquente qui fait que les gros réseaux d'internautes ne sont peut-être pas, ne seront pas toujours des réseaux européens ou occidentaux à la mode américaine. C'est important parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on entend par exemple régulièrement parler de réseaux sociaux comme Facebook. Facebook est peu pratiqué au Brésil, en Inde, et puis quasiment pas en Chine. Pardon ? Ils ont leur propre réseau, parce qu'ils ont leurs propres copains, et puis, donc il y a des logiques de réseau qui ne sont pas les mêmes. Mais ils ne sont pas sur le réseau social qui semble être le truc où tout ce qui se passe sur la planète est en train de se générer. C'est pas là que ça se passe. L'autre chiffre à côté, oubliez lequel CD, celui-là. C'est le nombre d'habitants, cette fois, en termes de densité. Donc là, on a un chiffre qui fait que la Chine, du coup, a baissé. Parce que, bah, effectivement, le nombre de Chinois connectés à Internet est moins dense que le nombre d'Américains. Mais là, on voit que ces deux pays qui étaient avec le plus d'internautes, et bien finalement, ils ont beaucoup reculé par rapport au Canada, par rapport à l'Europe, et en particulier l'Europe du Nord, ou par rapport à l'Australie. Donc, on voit que là, il y a aussi des différences, et que plus on est au Nord, plus le taux de connexion par habitant est important. Il y a probablement des facteurs richesse qui jouent, mais je pense qu'il y a aussi des facteurs climatiques. Il y a indéniablement des facteurs climatiques. Notamment, vous avez un pays qui est ultra connecté, enfin, les pays baltes sont ultra connectés, et en particulier, la Finlande est un pays où il y a eu énormément d'innovations en termes de technologie de communication. Je pense que quand il est difficile d'aller voir la famille, tout simplement parce qu'on est bloqué par le froid et par la neige, eh bien, ça incite à pratiquer des technologies de communication à distance.
Dans la Chine, où il y a un climat très humide, à mon avis, les ordinateurs ne vont pas faire beaucoup.
Oui, en plus de ça, il y a des... Alors, les ordinateurs, maintenant, résistent quand même de mieux en mieux aux conditions météo. Mais effectivement... Et puis, le diagramme qu'on a en bas, eh bien, c'est le nombre d'ordinateurs pour une centaine d'habitants. Ben, vous voyez que ça rejoint un petit peu quand même assez bien. Alors, ces cartes, on voit quand même qu'il y a des choses qui font qu'elles se superposent en partie. Mais on a ces différences qui sont à la fois des différences économiques, des différences climatiques, des différences culturelles aussi, qui vont faire aussi que il y a des développements qui sont différents. Alors ces développements sont différents avec dans l'idée que les pays développés sont les pays les mieux équipés. Ce qu'on retrouve sur ce camembert, hein, avec la répartition de l'accès à Internet, eh bien que les États-Unis et l'Europe se partagent pratiquement 50% de l'accès à Internet en 2005. Depuis, ça a changé. Ça a encore réduit du côté de la part de l'Union européenne et des USA. Alors que des pays comme l'Inde, le Brésil et la Chine sont des pays qui sont en forte croissance, mais qui apparaissent comme moins. Alors, en contrepartie, donc, on voit qu'il y a des pays émergents qui sont vraiment ce qu'on peut appeler des pays émergents, qui sont de plus en plus présents en termes de nombre d'abonnés, mais en termes aussi d'appropriation des technologies, et en termes aussi de déploiement d'infrastructures. On a des logiques de construction d'infrastructures qui vont permettre notamment à ce qu'il y ait des sauts technologiques qui permettent à certains pays de rattraper leur retard. Je vais prendre un exemple. Dans les pays qui sont très connectés, même si on ne le voit pas apparaître sur ce graphique, vous avez la Corée du Sud. La Corée du Sud est un pays très fortement connecté. Une grande partie de la population est connectée. Je crois que quelque chose comme 6 ou 8 Coréens sur 10 l'année dernière ou dans les deux dernières années ont suivi des formations à distance. La Corée du Sud, c'est aussi un des pays où il y a des joueurs de jeux vidéo professionnels. Donc, c'est un pays qui est fortement engagé dans le numérique. Et on ne parle même pas du fait qu'ils ont un chanteur qui est devenu super célèbre sur YouTube et que sa vidéo a été visualisée 1 milliard de fois. Donc, c'est pour dire que la Corée est très présente. La Corée est très présente de la même façon, presque pour les mêmes raisons que la France. Parce qu'à un moment donné, elle est passée très rapidement aux technologies haut débit, notamment au travers de la fibre optique et de la DSL. Parce qu'il y a eu une incitation et un portage, une structuration, plus exactement, pardon, structuration du système économique téléphonique qui a permis qu'un opérateur, eh bien, qui contrôlait le truc, puisse initier un certain nombre de changements, dans le bon et dans le mauvais sens, mais a permis de les initier avec un fonctionnement du téléphone qui était particulier à ce pays-là, si on le compare par exemple avec les États-Unis. Alors on pourrait prendre l'exemple de la France à la place de celui de la Corée, il vous parlera peut-être mieux. Les États-Unis ont une connexion à la DSL qui est inférieure en nombre de connexions par habitant à celui de la France. La France est ultra connectée en ADSL. Elle fait partie des pays les plus en avance en connexion au débit. Parce qu'historiquement, la France se trouve dans une structure de son réseau téléphonique et de son économie téléphonique qui est complètement différente de celle des États-Unis. Aux États-Unis, tout le monde a le téléphone dans les années 70, alors que la France, le téléphone filaire, va arriver chez à peu près tout le monde dans les années 80-90. Dans les années 70, dans les immeubles, il y a un ou deux voisins qui ont le téléphone et les voisins font la queue chez eux pour aller téléphoner à leur famille ailleurs. Ou alors on téléphone du boulot. Mais on n'a pas le téléphone en France au domicile dans les années 70. Alors qu'aux États-Unis, dans les années 70, toute la famille, pratiquement, a son téléphone. C'est pas rare qu'aux États-Unis, dans les années 70-80, il y ait deux ou trois lignes de téléphone à la maison. Et la particularité, c'est que le téléphone est en plus gratuit en communication locale. Lorsqu'Internet va arriver, les premières connexions à Internet se font par le biais de la ligne téléphonique au travers de ce qu'on appelle les modems RTC. Donc on passe par la ligne téléphonique pour aller se connecter chez son opérateur qui va nous donner. On est dans un Internet bas débit qu'on va payer en France comme on paye le téléphone, c'est-à-dire à la durée. Donc plus vous passez du temps sur Internet, plus vous payez cher. Il va y avoir une évolution tarifaire qui va faire qu'il va y avoir des numéros Internet qui permettront d'avoir des accès forfaitaires à l'heure un peu moins chers, mais n'empêche qu'on paye à l'heure. pour bas débit. Aux États-Unis, à la même période, milieu des années 90, fin des années 90, entre 95 et 2000, aux États-Unis, l'accès à Internet, eh ben, il se fait en local, comme en France. Mais sauf qu'en local, je vous rappelle, c'est gratuit. Le jour où Napster arrive et que les gens se mettent à télécharger de la musique, pour les Français, ça j'en avais parlé la semaine dernière, mais pour les Français, ça devient très cher Internet. Parce que vous connectez 5 minutes le temps de relever votre mail le matin, et puis 5 minutes le soir, le temps de le relever à nouveau, et puis à chaque fois que vous vous connectez, ce que vous avez préparé comme message, ça part, ça va très bien. Puis à cette époque-là, on ne s'envoie pas des diaporamas, on n'a pas des vidéos à télécharger, etc. Donc ça va très bien, ça ne nous coûte finalement pas si cher que ça. Quand arrive Napster et qu'on se met à télécharger un morceau de musique qui pour une durée de 3 minutes va mettre 20 minutes à arriver sur votre ordinateur. Si vous téléchargez un album complet, vous voyez que vous allez y passer 2-3 heures. Je vous rappelle qu'en plus de ça, vous payez le gravage pour pouvoir l'écouter ailleurs. Finalement, entre le temps de téléchargement, le coût du gravage, on n'a pas gagné énormément de choses par rapport à être allé l'acheter à la Fnac ou à Carrefour. Mais il y a un autre plaisir derrière, et puis il y a une autre socialité qui se met en place, et ça coûte cher pour un Français. Pour un Américain, c'est intéressant. Ouais, c'est un peu long, mais il s'en fiche. De toute façon, pendant la journée, il est au boulot. Donc il fait sa liste le matin avant de partir, ça télécharge, il revient à son album. C'est pas bien grave, sinon il le lance le soir, il arrive le lendemain matin, c'est prêt, ça a été téléchargé. Donc, sur la musique, ça lui va très bien, ça lui coûte rien de plus, si le Français, ça lui coûte. En France, on arrive avec une technologie qui pointe, un opérateur qui pointe, et qui va permettre, cette technologie-là, qui va s'appeler la DSL, qui va permettre d'utiliser la ligne téléphonique en haut débit, à un tarif forfaitaire, de façon illimitée. Là, c'est la révolution. Parce qu'effectivement, le premier niveau, il y a éventuellement le haut débit qui va intéresser les gens, mais le premier niveau qui va intéresser les gens, c'est qu'on va savoir que ça va nous coûter 30 ou 45 euros par mois, et puis point barre. Ce qui nous sortira des quelques centaines d'euros que ça coûte déjà à certains à ce moment-là de passer par d'autres formules. Donc il est évident que sur le fait de passer à un forfait illimité, ça change la donne. Du coup, la France passe très rapidement à la DSL, d'autant plus qu'on se retrouve en France, pour la première fois sur notre réseau téléphonique, sur une situation de quasi-concurrence. Je dis quasi-concurrence parce qu'on peut rediscuter des modèles de concurrence à la française, mais n'empêche qu'il existe quand même une certaine forme de concurrence qui fait qu'il y a au moins un opérateur qui va en bousculer un autre et puis obliger les autres à essayer de courir derrière. Et qu'à partir de ce moment-là, on a un accès à la DSL qui n'est pas cher du tout. Aux États-Unis, cette diversité ne s'exprime pas de cette façon-là économiquement. Aux États-Unis, les gens, finalement, effectivement, ils pourraient y gagner pour télécharger plus vite des albums de musique, mais sauf que la DSL, ça va leur coûter. De rester en RTC, ça ne leur coûte pas. Donc à la limite, pendant un certain temps, ils vont préférer du bas débit plutôt que de payer. Ça va les intéresser de passer au débit à partir du moment où les pratiques d'échange de fichiers vont passer à autre chose que de la musique. Parce que la musique, vous pouvez attendre une nuit pour récupérer un album, c'est pas très grave, mais si vous vous mettez à télécharger un film qui est tombé dans le domaine public, on est d'accord, pas l'impression de quoi que ce soit. Mais vous voulez télécharger un documentaire qui est en Creative Commons, qui fait 600-700 mégas, eh bien, ça veut dire qu'en RTC, vous allez en avoir pour une semaine à 15 jours. De branchement non-stop. Avec des technologies qui ne sont pas super au point, qui font que si vous plantez le téléchargement en plein milieu, on repart pour 15 jours. Si ça arrive la première heure, c'est pas grave, mais la dernière heure, ça met la mort. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, il y a un intérêt à basculer sur une autre technologie. Mais les États-Unis ont pris du retard là-dessus. Autre exemple, la téléphonie mobile. Et celui-ci concerne directement les pays émergents. la téléphonie mobile, eh bien, elle va arriver à un moment où effectivement, il y a quelques ressources économiques qui permettent aux pays émergents, y compris les pays africains, etc., l'ensemble des pays de la planète, d'accéder à des technologies de communication. Mais ces pays-là n'ont ni les infrastructures, ni les moyens d'investir dans des infrastructures filaires, comme elles existent depuis longtemps en Europe. En Europe, on a la DSL, parce qu'on a réussi à recycler un vieux câble, entre guillemets, une vieille technologie de fil cuivré, pour en faire quelque chose d'autre. Sauf que quand vous allez au Brésil, compte tenu des distances, etc., etc., c'est pas câblé partout. Et c'est bien plus simple de placer des antennes pour téléphone mobile que de câbler pour des téléphones fixes. Résultat des courses, en Égypte, où il n'y avait quasiment pas de téléphone fixe, y compris dans les villages, il y en avait un par village, eh bien, on se retrouve avec la possibilité pour au moins par famille, voire même plusieurs personnes dans la famille, la possibilité d'avoir un téléphone mobile. Parce que le téléphone mobile, on peut déployer une infrastructure beaucoup plus simplement. Ce qui fait que ces pays-là vont faire un saut direct. Ils ne vont pas connaître ce que nous, on a connu avec le téléphone. Et pour ceux qui ont déjà vu le film, le vécu de l'adolescence dans La Boum, où vous avez l'adolescente avec son fil super long qui essaye d'aller se planquer quelque part pour pouvoir téléphoner parce qu'on n'a pas de téléphone mobile. Donc il faut partager à la maison un téléphone fixe avec sa rallonge. Et puis, c'est ces pays qui vont avoir ces technologies, qui sont des technologies avec les services Internet et dont on a parlé en long, en large et en travers il y a 2 ans au travers de l'impact de la téléphonie mobile sur les révolutions, sur le printemps arabe. Alors, j'ai déjà évoqué ça dans une conférence que j'avais faite il y a quelques mois de ça ailleurs. Je ne vais pas revenir en détail dessus, sauf si on y revient par la suite. Mais on voit que l'absence d'infrastructure permet, à un moment donné, de passer directement à des infrastructures de nouvelle génération. Que de la même façon aussi, on n'avait pas la DSL triple play avec des opérateurs qui permettaient d'accéder à plein de télévisions, eh bien, la technologie, par exemple, de la télévision satellitaire s'est déployée, par exemple, en France, d'abord dans des communautés qui, a priori, sont défavorisées du point de vue de l'accès aux technologies, mais qui avaient un intérêt à utiliser les antennes satellites pour pouvoir capter des émissions qui étaient dans la langue de leur pays d'origine. Et donc à partir de ce moment-là, des catégories qui semblaient défavorisées et manquer d'une certaine forme de culture technologique, eh bien, elles vont gagner sur cette technologie, parce qu'elles en ont besoin. Là où les gens qui sont du pays, eh bien, ils ont la télé hertzienne qui leur envoie l'information dans leur langue, ils n'ont pas besoin de chercher d'autres canaux de télévision. Et du coup, vous avez des communautés de migrants qui vont avoir un accès, un besoin d'accéder à des informations qui passent par des outils technologiques, ce qui leur permet, du coup, de développer individuellement et au sein des communautés des compétences. Ces compétences, elles sont développées dans les pays d'accueil, mais ces compétences vont aussi, du coup, on repense à notre cybercafé de Bamako, ces compétences vont aussi, du coup, migrer vers les communautés qui sont restées au pays. Donc, de ce fait-là, on va avoir une circulation de compétences et il n'est pas étonnant que dans un certain nombre de pays émergents, il y ait aussi des poches, des lieux de compétences en matière de développement de nouvelles technologies. Parce que c'est des communautés qui s'en servent. Alors, ici, on pourrait regarder quelques évolutions et je le ferai très rapidement. Ce qui est surtout important, alors ici, c'est en haut, c'est juste des différences qu'il y a entre le fait que les pays émergents, ils sont ici très nombreux en termes de population, mais on voit bien qu'en termes de lignes fixes, de mobiles, etc., au moment de ce truc-là qui est fait en 2003, il y a une forte disparité entre les pays riches et les pays développés et les pays émergents. Ce qui est intéressant, c'est ici plutôt l'idée qu'on va avoir l'évolution de la téléphonie mobile. Et l'évolution de la téléphonie mobile, ce qu'on va remarquer, c'est que la téléphonie mobile est la technologie qui se développe effectivement le plus partout. Et qu'il y a une convergence vers le taux d'équipement au niveau de la téléphonie mobile, alors que par exemple l'accès à l'ordinateur, eh bien, est un accès qui va être beaucoup plus lent. Donc ici on a la téléphonie mobile et on voit qu'on a des lignes qui sont convergentes, ce qui n'est pas forcément le cas pour l'utilisation d'Internet. Et que l'utilisation d'Internet dans les pays émergents, elle se fait généralement et souvent via les smartphones. Donc c'est un Internet, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais c'est un Internet dégradé. C'est un Internet en mode réduit. Ce qui, à mon sens, génère de nouvelles formes d'inégalité. Alors, le cas de la France pourrait être repris sur la question locale. J'avais aussi une carte à peu près du même style pour les États-Unis, où on a des endroits qui sont mal équipés. Qui sont mal équipés, et vous trouverez sur Internet, en cherchant un petit peu, vous trouverez notamment l'exemple du Jura, où le Jura, eh ben, c'est un département qui n'est pas très peuplé, c'est un département qui est rural, et du coup c'est un département où le déploiement de la technologie, s'il n'y avait pas, et il n'y a pas systématiquement, de contraintes de service public, eh ben, fait que le haut débit n'arrive pas de partout. Alors, pour qu'il puisse arriver de partout, on a mis en place des lois qui devaient permettre à ce que les collectivités territoriales fonctionnent comme étant des fournisseurs d'accès. Sauf que généralement, pour être des fournisseurs d'accès, ils vont s'adosser à des opérateurs télécoms qui ont pour objectif de gagner de l'argent. Mais dans le cas du Jura, eh ben, grosso modo, par rapport à ce qu'ils escomptaient gagner, ils étaient 10 fois en dessous. Et pour l'instant, eh ben, c'est au point mort le déploiement de l'accès à Internet pour tous. Grosso modo, depuis 2 ans, l'accès au haut débit n'évolue plus en France. Il y a les zones qui l'ont. Et les zones qui ne l'ont pas, ne l'ont toujours pas, et ne l'auront probablement pas avant on ne sait pas combien de temps. Ça n'avance plus de ce côté-là. Et que malgré tout, même dans les zones urbaines, vous allez avoir des conditions d'accès au haut débit qui ne sont pas forcément les mêmes, qui n'ont pas forcément la même qualité. Il n'empêche que globalement, si les zones rurales ont un accès au réseau, qu'il soit de téléphonie mobile ou au réseau de Internet, plus difficile, et bien n'empêche que ces zones-là, ils ont quand même un petit accès. Et ce petit accès, cet accès, même de qualité à certains endroits, change tout. Il change tout parce que si d'un côté on a quand même ce différentiel, il existe quand même une connexion qui fait que même si vous êtes dans un hameau en Lozère, vous avez la possibilité d'être au courant quasiment en même temps qu'un petit Parisien ou un petit habitant de Los Angeles du moment où sort l'album des Red Hot Chili Peppers. Il est disponible pour vous en même temps. Vous le trouverez sur l'Apple Store le même jour. Donc, on voit bien du coup qu'on a un accès à l'ensemble d'Internet avec une qualité peut-être dégradée, mais malgré tout, on a un accès à l'ensemble d'Internet, eh bien, pratiquement de façon équivalente. On a accès à l'information. Alors, on pourrait évoquer aussi d'autres trucs à ce niveau-là sur la connectivité locale et qui mériterait qu'on discute aussi sur cette question-là. Ce serait la question de l'accès à Internet en parlant de la neutralité de l'accès à Internet. La neutralité de l'accès à Internet, c'est un truc qu'on n'évoque pas beaucoup et pas souvent, mais qui a été évoqué il y a quelques temps au travers d'une petite provocation, à mon sens, mal placée, mais d'une petite provocation d'un opérateur téléphonique qui s'appelle Free. Et vous avez entendu parler il y a 15 jours, à peu près 3 semaines, où Free a mis en place un système qui filtrait la publicité sur Internet. Histoire de dire à Monsieur Google, qui ne paye pas d'impôts en France et quasiment pas en Europe, de dire que ça serait quand même bien de partager une partie des revenus qui finalement, si la publicité de Google arrive sur nos ordinateurs, c'est parce qu'elle passe par les tuyaux des opérateurs. Et donc les opérateurs disent, comme les marchands de journaux arrivent, enfin les créateurs de journaux sont à peu près arrivés avec Google, à mon avis, ils sont bien fait en fumée. Mais discuter avec Google sur l'idée de dire que ça serait bien de repartager un peu. Alors, je reviens sur la question de la neutralité. Si Free se permet ce truc-là, ce qui, à mon sens, est totalement déplacé. Il ne devrait pas s'autoriser de faire ça. S'il respectait quelque chose qui devrait être fondamental et qui, au départ, est quelque chose qui est attaché à Internet, ils enfreignent ce qu'on appelle la neutralité du net, la neutralité d'Internet. Enfreindre la neutralité d'Internet, eh bien, ça veut dire que, eux, en tant qu'opérateurs, ils jugent des usages et des informations auxquelles on doit accéder, celles auxquelles on n'a pas droit, et éventuellement de mettre en place des priorités sur la distribution des flux. C'est-à-dire que si vous êtes chez Orange, il y a des chances que ce soit plus facile de visualiser une vidéo sur Dailymotion que sur YouTube. Oui, parce que le capital de Dailymotion est en partie... Donc, on va avoir comme ça des choses qui vont contraindre la neutralité. Mais ça, généralement, les opérateurs ne disent pas.
S'il y a réellement une neutralité, quand on voit, par exemple, la Chine qui filtre, par exemple, la série humaine, et puis qui ne fait que des beaux reportages touristiques sur la série humaine, et qui édite toutes les images, je pense que même au niveau gouvernemental, l'Internet n'est pas neutre.
Alors, il y a deux choses. Il y a des choses qui relèvent du droit sur les informations qui circulent avec des informations qui sont légales et des informations qui sont illégales. On ne peut pas faire circuler un certain nombre de données, ce qui permettrait de porter atteinte aux biens et aux personnes, etc., de par la loi. De la même façon qu'on n'a pas le droit de dire certaines choses ou à certains endroits, etc., etc. En France, vous avez le droit de le faire. Et normalement, vous ne coupez pas votre accès à Internet pour ça. Normalement, a priori, peut-être que ce n'est pas emmagasiné par des ordinateurs. Mais en tout cas, le fournisseur d'accès, il n'intervient pas dessus. Il ne va pas freiner le mot quand vous allez l'envoyer. En revanche, effectivement, il existe en France des opérateurs qui respectent la neutralité d'Internet. Vous en avez à Lyon, vous en avez un peu partout en France, qui sont parfois des fournisseurs d'accès associatifs complètement indépendants, qui vont permettre effectivement de se connecter et de ne mettre aucun filtre sur le trafic que vous demandez. Et eux, autant ils reçoivent ce trafic, ils vous l'envoient. Alors après, s'il y a des gens qui, en dehors de leur périmètre d'action, vont intervenir sur le truc, ils n'y peuvent rien. Mais en tout cas, entre le réseau Internet et chez vous, c'est pas eux qui vont filtrer. C'est pas eux qui vont traiter. C'est pas eux qui vont dire je privilégie le trafic de machin par rapport au trafic de trucs.
Si vous avez ce genre d'opérateur, par exemple en Chine, on pourra tout faire ce qu'il voudra. Du moment que au départ c'est filtré,
C'est sûr.
Sur le serveur du gouvernement, c'est filtré.
Oui, oui.
Ouais.
Donc, du coup, cette neutralité, elle va faire aussi selon l'offre, l'endroit où on a une offre qui est différenciée, qui permet aux gens d'avoir le choix ou pas. Je prends juste un exemple comme ça, effectivement, il y a quelques années de ça, mes parents vont s'installer à la campagne, Mais avant de s'y installer, ils y allaient une fois de temps en temps. Donc il y avait un opérateur qui disait, tant qu'il n'y a pas la DSL, nous on vous fait 25 heures gratuites par mois. Je dis, chouette, la maison elle est à la campagne, on va prendre ce truc-là pour envoyer 3 mails une fois qu'on est en vacances, par-ci, par-là, ça ira très bien. On ne va pas se casser la tête pour faire autre chose, puisque vous voulez une connexion Internet. Je ne savais pas pourquoi ils en voulaient une. Vous voulez une connexion, on va prendre ça. On fait la commande, résultat des courses, on reçoit un boîtier pour se connecter à la DSL. Alors que l'opérateur historique avait expliqué aux gens du hameau qui étaient là résidents que, oulala, ma brave dame, pas avant 2 ou 3 ans, ça arrivera à la DSL chez vous. La DSL a marché du premier coup. Par contre, les voisins, quand ils ont demandé à l'autre opérateur d'avoir la DSL, ils ne pouvaient toujours pas l'avoir. Quand ils sont passés par l'opérateur alternatif, ils ont reçu un boîtier, mais ça n'a jamais marché chez eux, en sachant que les armoires sont chez l'opérateur historique. Et que c'est lui qui a accès aux clés et qui fait les réglages. Mais voilà, donc on voit du coup qu'on a des jeux qui se font en fonction des offres auxquelles on va avoir accès. Alors, si je continue sur le niveau social, on a souvent la vision qu'en France, là encore, si on écoute les médias, quand vous regardez une émission de télé, quand vous écoutez une émission de radio, quand vous lisez un journal gratuit, systématiquement, si vous voulez en savoir plus, eh ben, ils vous disent comment en savoir plus. www, viens chez moi, j'ai le reste des informations.com. Oui, ça c'est intéressant pour 75% des foyers français. Mais vous avez 25% des foyers qui n'ont pas Internet. Donc ça veut dire que vous avez 25% des gens qui sont exclus de l'information complémentaire. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on dit que ce qui est vachement bien, c'est que ce soit accessible sur les tablettes. Les tablettes, c'est 10% des personnes les plus aisées en France. Donc, ce chiffre, il est aussi à réviser, c'est que pour les foyers à 1500 euros de revenus, par mois, il n'y a plus que 57% des personnes qui... Enfin, non, il y a au contraire 57% des foyers qui n'ont pas accès à Internet. Il y a 57% des foyers dont les revenus sont inférieurs à 1500 euros qui n'ont pas accès à Internet. Voilà. Donc, ces accès varie aussi. Alors cette étude, elle tient moins la route parce qu'elle est de 2002. Mais vous avez donc une répartition qui a évolué en fonction des catégories socio-professionnelles. Où vous avez les catégories professionnelles supérieures qui généralement ont eu un accès à Internet assez rapidement. Mais derrière, vous avez des catégories du tertiaire, des gens qui travaillaient avec Internet au travail, qui finalement l'ont gardé à la maison. Ils en ont eu une expérimentation, une utilisation au boulot. Et finalement, ils se sont mis à l'utiliser à la maison. Et puis, vous avez aussi beaucoup, toutes les familles qui avaient des enfants et qui, sous la pression des enfants et la pression sociale, eh bien, n'ont pas résisté à Internet parce qu'ils n'allaient quand même pas priver leurs enfants de cet accès au savoir et au Skyblog. Non, parce que je pense qu'ils ont passé quand même vachement plus de temps, enfin moi je vois mes filles, hein, ont passé vachement plus de temps sur les Skyblog que sur Wikipédia ou d'autres encyclopédies. Alors, il y a des archétypes, hein. On pourrait avoir des archétypes qui diraient que la personne qui est déconnectée, c'est une femme, elle est noire, elle est handicapée, elle vit toute seule. Je ne peux pas vous en remettre plus, mais si, elle habite à la campagne. Et elle fait un métier pourri si elle en a un. Donc, voilà, alors là, c'est bon, pas de bras, pas de chocolat, rien du tout. Et puis à côté, ben, vous avez le branché, il est cadre supérieur, il habite Paris, Alors, c'est pas celui qui travaille dans une agence de com, mais c'est plutôt un cadre supérieur, qui a des enfants, qui a une femme, peut-être une maîtresse aussi, mais ça, ils le déclarent pas quand ils font le truc ensemble. Donc, et il habite en ville. Donc, on a là plutôt des portraits qui, à mon sens, sont des portraits, malgré tout, très caricaturaux. Qui sont le résultat, effectivement, qu'on va retrouver sur plein d'études sur les usages d'Internet. Et qui font que, ben oui, si on fait ressortir les critères qui sont dominants dans chaque catégorie, on arrive à faire un portrait comme ça, mais si on y regarde de près, il n'y a pas grand monde qui cumule l'ensemble des caractéristiques qui vont faire que c'est quelqu'un de branché ou que c'est quelqu'un de déconnecté. D'autant plus que les gens qui sont sur Internet ont tous rencontré des personnes qui devraient appartenir à une des catégories, puis finalement ils n'y sont pas, et que ceci devrait se doubler d'une approche du rôle des personnes à l'intérieur des réseaux. Et là je ne parle pas des réseaux, le réseautage sur Internet, des réseaux sociaux, des réseaux relationnels qu'ils vont avoir, où vous avez des gens qui jouent des rôles de relais à l'intérieur de communautés, de groupes, qui n'ont pas forcément d'intérêt à être sur Internet. Parce que finalement, il n'y a pas forcément ce dont les gens ont besoin pour vivre sur Internet. L'autre chose qui est notable, par contre, dans les études depuis 2-3 ans, c'est l'apparition des déconnectés volontaires. Les gens qui décident de débrancher. Donc je pense que je vais finir par déposer mon logo wirelessless qui sera vendu aux sites d'hébergement, gîtes ruraux, etc., etc., qui proposeront aux personnes qui viendront l'assurance qu'ils seront dans une zone non couverte par la connectivité, un quelconque réseau, et où il y aura un marteau à l'entrée permettant de casser les clés 3G qui seraient rentrées par ce point. Là, les gens vont redécouvrir les battances. Parce qu'une des particularités qu'on a derrière ça, c'est qu'effectivement, la mobilité qu'on va avoir, ce qu'on appelle la mobilité, c'est en fait un cordon ombilical à son univers et entre autres à son univers de travail. C'est que les gens sont devenus d'astreinte permanente, quel que soit leur boulot. Effectivement, on ne se bat plus sur la question des 35 heures, parce que plus personne n'est capable de mesurer le temps de travail. Ouais, non mais je regarde juste un mail comme ça pour savoir si pour demain il faut que j'y aille ou pas. Eh oui, mais n'empêche que tu as bossé. Tu as bossé pendant 3 minutes. On est dimanche, je vais corriger 2-3 copies. Ils ont déposé des trucs sur le site, j'ai reçu des mails, sinon je vais en avoir plein à faire à partir de ce moment-là. Et du coup, ce qui est vachement bien, c'est qu'on n'a plus besoin de faire de permanence pour recevoir les étudiants ou les enseignants, puisqu'ils peuvent nous écrire par mail. Donc finalement, on passe plus de temps à répondre aux mails. Puisque calculer le temps qu'il faut pour leur expliquer un truc, ou éventuellement vous les faites rentrer à 3 dans le bureau, et le temps qu'ils reçoivent le mail, qu'ils y répondent, comme en plus ils vous ont donné leur adresse sur hotmail.machin, ça va vous revenir parce que leur serveur est saturé ou parce qu'ils considèrent que vous avez floudé, etc., etc. Et puis du coup, ils ne savent plus où il y a votre bureau à la fac. Donc, on passe beaucoup plus de temps à communiquer, ou soi-disant, effectivement, on devait gagner du temps. Différence intergénérationnelle, c'était un petit peu l'idée de la photo qu'il y avait au départ en haut. La différence intergénérationnelle. Alors on voit sur ce petit encadré que si tout à l'heure je parlais des gens qui n'avaient pas Internet et que c'était du point de vue social, on voit bien que du point de vue ici de l'âge, ça fonctionne aussi. Ceci étant, il faut quand même le tempérer et que c'est un effet, si on regarde les courbes, c'est un effet, alors, qui ici est encore très présent parce que ici on est en 2000. Donc il faut penser que les gens qui en 2000 avaient 70 ans, ils étaient à la retraite en 90 avant l'arrivée d'Internet. D'accord ? Avant le déploiement de la micro-informatique. C'est des gens qui n'ont même jamais connu la micro-informatique, l'informatique quasiment sur leur lieu de travail en termes d'utilisation. Ce qui aujourd'hui est en train d'évoluer, c'est que les gens qui arrivent à la retraite, eh bien, sont des gens qui ont connu l'ordinateur, pour un grand nombre, en situation de travail. Que c'est des personnes aussi qui deviennent grands-parents. Et pour les grands-parents, l'ordinateur, notamment quand les enfants vont bouger, il va y avoir une mobilité, c'est ce qui permet de voir les petits-enfants. Donc les gens, ils vont utiliser Skype. Ça a l'air plus blanc. Ça a été racheté par Microsoft, c'est pour ça. Donc, Skype est un truc qui effectivement fonctionne très bien pour un certain nombre de familles qui, à distance, vont pouvoir combler ici une fracture géographique. Ils vont pouvoir discuter avec le reste de la famille. Donc on voit qu'on a ces usages-là qui se développent. Ces usages qui se développent aussi, bah parce que pour tout un tas de personnes, ça devient malgré tout un outil qui permet de communiquer avec les anciens collègues qui sont devenus retraités, que dans le cadre des activités associatives que bon nombre de retraités vont avoir, eh bien ça fait partie des gens qui du coup finalement sont disponibles, comme la semaine dernière ils étaient disponibles pour participer à des clans dans des jeux vidéo massivement multijoueurs, eh bien ici, ils vont être disponibles pour mettre à jour le blog, pour mettre à jour le site de l'association et pour y mettre toutes les photos qu'on a pu récupérer pendant la dernière concentration cycliste qu'on a fait au col de la République avec 2500 cyclos, etc., etc. Donc, on va avoir ces personnes qui vont être disponibles et qui aujourd'hui, avec aussi une évolution des interfaces qui sont plus accessibles. Il y a 10 ans, faire une galerie photo sur Internet, c'était pas compliqué pour celui qui aimait mettre un peu les mains dans le cambouis, mais fallait penser à savoir qu'est-ce que c'était que la taille d'une image, est-ce qu'il fallait retailler ou pas les images, quels étaient les formats, il fallait coder un petit peu la page, alors on avait des outils, mais c'était quand même besogneux. Aujourd'hui, les gens, ils prennent leur carte d'appareil photo, ils la mettent dans l'ordinateur, vous avez un logiciel qui s'ouvre et qui vous permet de récupérer les photos sur la carte, de les envoyer avec la date du jour et éventuellement, vous marquez juste le nom de l'événement, directement sur Flickr ou sur Picasa, y compris quand vous avez un environnement sous Linux. Tout se perd. Même sous Linux, les choses sont faciles. Je ne fais pas la promotion de Linux, et j'ose pas le dire, mais en vrai, Linux, c'est un système pour les seniors. Ceux qui utilisent Linux, ils le savent bien, c'est comme ça qu'ils ont la paix. Pour pas faire de la maintenance chez papa et maman, on met un système qui résiste. Donc, la migration vers la parité. Migration vers la parité, alors, aujourd'hui, je pense qu'en France, on a globalement, en termes d'utilisation basique du numérique, pas véritablement de disparité sur l'accès au numérique pour les hommes et les femmes, pour les garçons et les filles. N'empêche qu'il reste des poches culturelles où il y a une grosse différence de genre sur les personnes qui y sont. Vous prenez malgré tout encore aujourd'hui le milieu de l'informatique. Et là, je reprends le milieu de l'informatique libre, le logiciel libre, qui veut avoir plein de trucs éthiques en tout genre, et ben n'empêche que dans les communautés de logiciels libres et des gens qui créent les logiciels libres, il y a 10% de femmes. 10% de femmes que dans les entreprises qui font du logiciel propriétaire, il y en a 20 à 40%. Et on voit qu'il y a une forte différence. Alors que on n'est pas recruté. Il suffit de dire « je veux développer ». Entre guillemets, il suffit de dire. Manifestement, ça ne suffit pas. Donc il y a des choses qui font qu'il y a des endroits où il y a des disparités. Que dans certaines pratiques numériques, il y a des pratiques qui sont plutôt très masculines. Et en sens inverse, vous avez des espaces qui sont plutôt très féminins. Donc, sur les sites de jeux où on se tire dessus à la première personne en gros bourrin, c'est plutôt garçon. Mais quand on va discuter santé sur Doctissimo, c'est plutôt nana. Alors on voit bien que Internet a été un vecteur de féminisation de l'usage des technologies numériques. Parce que avant Internet, c'était quand même très majoritairement masculin. Avec l'arrivée d'Internet, on a une féminisation au travers des utilisations communicantes qu'on a sur Internet.
Ceci étant, je vais faire un bémol parce que j'ai assisté à une formation sur Internet. Sur un amphi de 300 personnes, il devait y avoir 3 filles. Voilà. Donc,
c'était une formation sur quoi ?
La programmation.
C'est ce que je disais. C'est, quand on est dans le domaine du développement, c'est de la testostérone. Manifestement, pour écrire GoTo ligne 27, il faut être poilu. Sinon, ça ne marche pas. Pour les filles, on réserve des gros smileys dans les forums. Non, pas forcément. Pas forcément parce que ça va être va y avoir de la productivité qui va être faite de façon différente sur des lieux différents. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, on a énormément une grosse montée par exemple du nombre d'étudiantes dans les formations d'infographie. On va avoir, j'ai pas fait le calcul sur les dernières promos que j'avais, mais majoritairement pratiquement une population féminine des étudiantes du côté de la création graphique. Mais du côté de la programmation, quand ça va être les admin systèmes, c'est souvent essentiellement des formations où on retrouve des garçons. Mais dans les deux cas de figure, que ce soit en infographie ou que ce soit en programmation, on est bel et bien dans des situations de travail créatif et de travail valorisé. Parce que il y a des niveaux de valorisation différents. Il y a des gars qui font du code et qui font ce qu'on appelle pisser du code, c'est-à-dire qu'ils écrivent des lignes et ils écrivent des lignes, de la même façon que vous avez des gens qui, dans le design, vont se contenter de simplement produire des icônes et reproduire des icônes et retoucher du pixel. Bon, faire de la retouche sur des images d'une manière ou d'une autre, mais vous avez des gens qui sont créatifs à d'autres endroits, très créatifs d'un côté comme de l'autre. Enfin, un autre niveau d'accessibilité, c'est celui de l'accessibilité physique et intellectuelle. Et donc, avec l'idée que cette accessibilité, elle évolue avec des interfaces qui permettent de se connecter. Alors, je trouve, moi, personnellement, que ces dernières années, alors, j'ai pas prévu d'exemple à vous montrer, hein, mais ces dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions sur utiliser le numérique pour faciliter l'accessibilité, aussi bien au numérique qu'à autre chose, aux personnes qui sont en situation de handicap physique. Avec en priorité les handicaps visuels et les handicaps moteurs. Mais sur Internet, on ne trouve pas grand-chose qui est fait pour les personnes qui ont des déficiences auditives. Vous avez des trucs pour lire des pages web, vous n'avez pas encore pour l'instant des trucs pour vous signer les vidéos sur YouTube ou sur les podcasts de France Inter. Ça n'existe pas. Et quant aux handicaps mentaux, alors là, c'est plutôt le désert, dans tous les sens.
Moi, je côté, l'informatique permet aussi à ces gens-là de mieux voir. Par exemple, je pense aux gens qui sont sourds depuis un accident. On comprend un peu plus simplement de l'économie par connexion
informatique. Comme je disais, il y a un ensemble de technologies qui ont été développées au travers de l'informatique qui permettent de servir de prothèse, qui permettent de créer des prothèses, qui permettent d'accéder à une information qui a été restructurée. Un des gros trucs du web actuellement aussi, par exemple, c'est de migrer l'ensemble d'Internet vers l'utilisation d'un langage qui est le HTML5 accompagné d'un autre truc qui est le CSS3. Pour le commun des mortels, ça ne parle pas forcément directement, mais l'objectif, entre autres, de ce langage-là, au départ, après, on sait que ça a changé, mais l'objectif de ce langage-là, au départ, c'est de rendre accessible et lisible n'importe quel contenu Internet pour un certain nombre de déficiences. Donc, ça a pour vocation d'améliorer l'accessibilité. Surtout, ce qu'on s'est aperçu en vérité, c'est que ça permet de travailler sur la compatibilité des contenus aussi bien pour un site web sur un écran d'ordinateur que sur une tablette, que sur un smartphone. Et que du coup, ça permet a priori de recycler du contenu assez rapidement, assez simplement. Donc ce qui bénéficie aux uns profite, le mot est bon, aux autres. Voilà. Alors, l'accessibilité, pour moi, il y a deux voies, entre guillemets, qui font qu'on sort en termes de crise. Il y a une accessibilité que je dirais top-down, sur laquelle je ne vais pas forcément m'étaler, mais où ici je montre un morceau de propagande qui a été livré il y a quelques temps sur ce qui serait vachement bien, paraît-il, ce qu'on veut tous. Donc moi, je trouve que ça ressemble vachement à des chiffres nord-coréens, un petit peu plus faibles quand même. On est plus du côté de Téhéran que du côté de... Mais voilà, on a des chiffres qui sont assez forts sur ce que les Français veulent du numérique à l'école. Alors on en veut impérativement de partout, etc. Donc rappelons que notre président actuel a signé un contrat lorsqu'il était président du conseil général de son département pour que on ait une tablette d'une marque représentée par un fruit en partie consommé, on ne sait pas partie, donc d'un fruit en partie, et que en contrepartie, la gratuité des transports scolaires dans le même département a disparu la même année. Et derrière ça, il y a des enjeux qui, à mon avis, ne sont pas forcément très sains. Mais il y a ce que j'appelle une accessibilité top-down, c'est-à-dire que les élites vont recommander, inciter, pousser et par moments contraindre à des usages et le développement de certaines technologies. Ce qui parfois relève de l'hérésie sur certaines formes technologiques, mais on n'est pas au courant de tout ce qui peut se passer derrière et des petits arrangements qu'il peut y avoir avec machin, truc et bidule, mais qui peuvent aussi être des technologies qui font avancer. On a un exemple en France d'une technologie top-down qui a été imposée, mais qui, à un moment, a donné, on va dire, une certaine forme d'avance sur les pratiques numériques, ou en tout cas les pratiques de connectivité en France, c'est le Minitel. Le Minitel, c'est typiquement une technologie qu'on nous a plus ou moins imposée. Et avec des trucs qui étaient valables sur le Minitel pour l'imposer, c'est que les enseignants, pour gérer leur compte, eh ben, il fallait qu'ils passent par le Minitel. Aujourd'hui, vous avez un truc comme ça pour... Voilà, c'est ça. Là. Voilà. Donc, qui fait que maintenant, ah ben, tous les lycéens, ils ont accès à Internet. Alors, dans l'absolu, oui. Parce qu'on est censé avoir des espaces publics numériques à différents endroits, aussi bien dans les établissements que dans des bibliothèques, etc. etc. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui sont obligés de faire leur dossier post-bac aux heures d'ouverture tout seul et sans être dans un contexte familial qui va éventuellement participer au choix, à la décision et à la discussion. Et puis, donc, on a des systèmes qui forcent. Autre système qui force, alors ça vous avez peut-être vécu ça depuis quelques temps, c'est que si vous achetez des trucs sur internet avec votre carte bancaire, il faut aussi avoir un téléphone mobile. Ah, pas de téléphone mobile, pas d'achat. Et comme ça, vous n'aurez pas le code pour valider. Donc les 48 heures chrono, pour la Saint-Valentin, c'est raté. Vous ne pourrez pas faire livrer ce truc qui vous aurait sauvé la peau jeudi matin. Et puis, obsolescence programmée des trucs, et ben, c'est de faire en sorte qu'effectivement, on a des technologies qu'on rend obsolètes, plus ou moins volontairement, plutôt plus que moins aujourd'hui, mais qui font que vous avez certains appareils, toujours avec le même fruit, dont on ne peut pas changer les batteries. Quand elles sont mortes, elles sont mortes. Enfin, la batterie qui est morte, c'est l'appareil. Enfin, l'appareil n'est pas mort, mais la batterie est morte, l'appareil est acheté. Mais c'est pas grave, il y a un service de récupération pour vos données. Donc, il y a aussi ce que j'appellerais, ce sur quoi je ne m'étendrai pas forcément tout de suite, mais une notion d'idéologie de la modernité. Vous avez en parallèle des contagions inter-individuelles qui seraient plutôt des logiques, en sens inverse, que j'appellerais bottom-up. C'est pas moi qui les appelle comme ça, un monsieur qui s'appelle Serge Proulx. Et qui dit qu'il y a en gros des réseaux de proximité qui font que des technologies vont se déployer, vont se diffuser et être appropriées collectivement. Typiquement, Internet, c'est quand même plutôt, au départ, une technologie que les gens vont s'approprier. Alors que les grands groupes, les décideurs, etc., sont persuadés qu'Internet, ça ne marchera jamais en France. Parce qu'au début, il commence à y avoir des connexions à Internet en France, on dit « Ouais, mais Internet, c'est tout en anglais. Ouais, mais Internet, c'est vachement moins développé que le Minitel, parce que si tu veux prendre ton billet de train, ouais, ben on le prend où, son billet de train, aujourd'hui ? Prends sur Internet. » Mais c'est la SNCF qui est venue à Internet, ils n'avaient pas prévu de venir sur Internet pour y vendre des billets. C'est bien parce que ça a pris à un autre niveau. Et qu'il y a des pratiques communautaires, des pratiques d'échange de contenu et de savoir qui font que les gens vont s'approprier l'Internet et puis partager des choses. Partager des choses et surtout partager des pratiques. Et je crois que c'est un des vecteurs les plus importants de déploiement des technologies. C'est l'appartenance à un réseau social concret, réel, de proximité, qui permet aux gens de s'émanciper numériquement. Si vous avez personne dans votre entourage qui va vous accompagner à un moment ou à un autre, eh bien, les gens n'y vont pas. Et c'est pour ça que si on regarde les trucs sur les fractures numériques, eh bien, effectivement, les personnes qui sont isolées, on pourrait se dire, mais faut qu'elles aillent sur Internet, ça leur donnera une chance de s'inscrire sur Mythic et puis de rencontrer des gens. Mais non, parce qu'elles n'ont personne pour leur expliquer comment ça fonctionne une souris, personne pour leur expliquer la culture de l'image sur un site web. Où est-ce que je trouve le menu? Qu'est-ce que ça veut dire copier-coller? Quand on l'a fait, quand on nous a expliqué, quand on nous l'a montré, quand on l'a partagé, etc., ça nous va tout de suite. Mais si vous tapez tout ce qu'il faut savoir, l'air de rien, dans les livres, eh bien, vous n'y allez pas. Et vous y allez d'autant moins que vous avez un truc, alors ça que peut-être certains d'entre vous ont repéré s'ils ont des jeunes dans des formations, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une espèce de tabou à dire qu'on ne sait pas se servir d'eux. Aujourd'hui, on a de nombreux jeunes étudiants qui ne savent pas, en vérité, se servir d'un ordinateur. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils mettent des trucs sur des clés USB, etc., mais grosso modo, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que ça veut dire renommer un fichier. Ils savent pas, ils n'ont pas la moindre idée de comment ça fonctionne. Et si en cours, on explique quelque chose, personne ne lèvera la main en disant « Mais moi, monsieur, je ne sais pas ce que ça veut dire que changer l'extension d'un fichier. » Parce que c'est la honte. C'est à peu près autant la honte de dire ça qu'à 15-16 ans, dire bah, « Moi, je ne suis jamais sorti avec quelqu'un. Hein. » Et bien ça, il y a à peu près le même type de difficulté chez les jeunes aujourd'hui d'exprimer les difficultés qu'ils rencontrent dans l'univers numérique. Et du coup, il y a des choses qui sont en train de s'installer, des pratiques qui sont en train de disparaître, ils ne savent pas comment ça marche, et puis ben, ils accumulent et ils ne le disent pas. Et ça reste, et ça fait des couches auxquelles répondent les gens qui créent de l'informatique, qui créent du logiciel, etc., etc., en faisant des interfaces qu'on appelle intuitives. Les interfaces intuitives, c'est des interfaces qui interprètent les handicaps des gens pour qu'ils en sachent toujours moins sur comment ça fonctionne, mais qu'ils aient l'impression que ça fonctionne toujours mieux. Mais pour que ça fonctionne toujours mieux, ben en vérité, c'est qu'ils en font toujours moins avec leur ordinateur. Donc maintenant, ils peuvent se servir d'un écran avec un seul doigt, ils n'ont même plus besoin d'un clavier, n'importe quoi, ils font le truc sur l'écran avec un seul doigt. Mais on n'empêchera pas de penser que, du coup, ils font des choses beaucoup moins complexes. Alors quand il s'agit juste de lire un truc, c'est pas grave. Mais on ne peut pas imaginer troquer une tablette où on va l'utiliser qu'avec effectivement deux doigts contre un appareil qui est un petit peu plus compliqué. Oui, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ça permet de faire autrement plus de choses. Donc si on veut s'émanciper, il faut aussi avoir un objet qui permette de choisir. Si on a choisi pour vous, vous aurez du mal à vous émanciper. Voilà, donc je m'arrêterai globalement là-dessus, sur cette idée-là, et puis l'importance des rôles de passeurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Très rapidement, un autre truc sur ce qui a pu être imaginé et qui est une opération qui a plus ou moins bien fonctionné, qui est ici un ordinateur qui s'appelle l'OLPC, qui, comme je le rappelle aux Lyonnais, ce n'est pas un produit dérivé pour un truc qui nous coûte super cher en impôts locaux. Ici, c'est un ordinateur, OLPC, ça veut dire One Laptop Per Child, ça veut dire un ordinateur portable par enfant, qui était une opération qui a démarré au MIT, et où l'objectif était de faire un ordinateur à moins de $200 qui résisterait à des conditions climatiques difficiles, qui en termes d'énergie serait facilement alimentable parce qu'on pourrait le recharger soit à partir d'une dalle solaire, soit à partir d'une petite manivelle et puis faire pédaler les petits chinois ou les... Ouais. Mais que du coup ça permettrait à des enfants d'avoir une classe en réseau au milieu de la jungle et puis comme ça de pouvoir travailler avec ces trucs-là. Finalement ils ont monté ces trucs-là. Avant d'arriver en dessous des $200, vous aviez des mini-ordinateurs portables qui était sur le marché aux environs de 200 €. Donc finalement, ça a à moitié fonctionné, puis ils ont eu quelques difficultés, ils ont eu à mon sens des sponsors qui n'étaient pas forcément les bons à partir d'un certain moment. Donc on a ici une initiative qui est lourde à mettre en place, parce qu'on est dans ce sens-là. Vous avez une autre initiative dans le même style, qui à mon sens est peut-être un petit peu plus pertinente. C'est un truc qui s'appelle... Donc Open Sans Corée, qui, dans l'idée, donc, au lieu de filer un ordinateur par gamin, part d'une réalité africaine. C'est que là, on a une petite classe, il ne peut être que 30 à 50. Donc en fait, l'idée dans ce truc-là, c'est que plutôt que d'équiper toute la classe d'un petit ordinateur qui fait du réseau patati et patata, on va équiper plutôt l'enseignant avec un tableau interactif, en sachant que le tableau interactif qui est utilisé ici, tout compris l'ordinateur, le vidéoprojecteur, les ressources qui sont dans l'ordinateur, le crayon, donc ce qui va faire office de tableau, ça coûte moins de 1 000 €. Pour moins de 1 000 €, on équipe une classe. C'est pas qu'ils vont vouloir vous installer dans les écoles primaires lyonnaises. Dans les écoles primaires lyonnaises, ils sont partis pour nous installer des trucs qui sont vachement plus coûteux et qui rapportent vachement plus aux entreprises américaines qui ont des bases aux Bahamas. C'est dommage parce que les gens qui gèrent ce projet, ils sont lyonnais. Mais c'est pas grave. Donc, voilà. Et l'idée, c'est de dire qu'en Afrique, il y a une situation concrète. C'est que les gamins dans les classes, ils sont environ 200. 100 le matin, 100 l'après-midi. L'instit, faut qu'il prévoie, c'est du multiclasse, des exercices pour tout le monde. Il a un tableau qui fait 7 à 10 mètres de large, donc il prévoit des exercices pour tout le monde qui l'écrit, et il passe pratiquement 1 à 2 heures à préparer sa classe par demi-journée. Et bien là, il a les ressources sur un ordinateur, il n'a pas besoin d'être connecté à Internet. Les contenus sont dessus. Que pour ça, ils ont aussi travaillé avec des infographistes haïtiens, avec des infographistes africains, parce que quand vous allez chercher des cliparts, en général, les cliparts sont faits par des occidentaux. Donc un gâteau d'anniversaire, il est fait avec de la crème. C'est pas un gâteau d'anniversaire africain. Voilà, donc c'est un ensemble de choses qu'on a à l'intérieur de ce type de projet. Et avec l'idée que là, bah, effectivement, on peut le mettre en banc, on peut le mettre partout. Et que ça fonctionne. Voilà. Donc, quelques ressources, et puis il y aurait des tas d'autres bouquins. Une partie des informations aussi, et puis des réactualisations, je les ai tirées aussi de deux trucs. C'est le rapport du CREDOC qui est sorti en 2011. Alors, il n'est pas uniquement sur la fracture numérique, mais il est sur les pratiques numériques des Français, quelque chose dans ce genre-là, le titre. Et puis d'une étude de Havas qui est sortie en décembre dernier, il me semble, novembre-décembre dernier, donc où Havas a fait une étude sur les pratiques des Français, et en particulier les gens qui n'étaient pas connectés. Alors il y a des choses qui sont intéressantes dans l'étude, même s'ils n'oublient pas que leur métier c'est la pub, et donc leur idée c'est d'essayer de repérer ces profils de gens qui ne sont pas comme les autres, parce qu'ils ne sont pas connectés. Et de se demander, est-ce qu'on peut les atteindre, est-ce qu'on ne peut pas les atteindre, pourquoi ils ne sont pas connectés, d'essayer de comprendre pourquoi les gens ne sont pas connectés, et est-ce qu'il y a moyen de communiquer vers eux autrement, et est-ce que communiquer vers eux, ce n'est pas aussi recommuniquer vers des gens qui, soi-disant, communiquent par l'intermédiaire du numérique. Voilà. On fait le tour. J'étais un petit peu plus long que la dernière fois.